Bonjour à toutes et à tous. Ce matin, nous allons prendre dans l'Ancien Testament le livre de Deux Rois. Deux Rois, chapitre 7. Nous allons prendre le deuxième livre du roi. Deux Rois, chapitre 7. Nous allons lire le chapitre entier. Pour comprendre le contexte de ce qu'il parle. Deux Rois, chapitre 7. Élisée dit, « Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à 7 heures, on aura une mesure de fleurs de farine pour un sicle et 2 mesures d'orge pour un sicle à la porte de Samarie. » L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre, quoi resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville, et nous mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens, et s'ils nous laissent vivre, nous vivrons, et s'ils nous feront mourir, nous mourrons. Le verset 5, ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens, et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée, et il s'était dit l'un à l'autre, voici le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Hétiens, les rois des Égyptiens, pour venir nous attaquer. Ils levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Les lépreux, étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent, et en emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente et en emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Le verset 9. Puis ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonne nouvelle. Si nous gardons le silence et nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et nous allons informer la maison du roi. Ils partirent et ils appelèrent les gardes de la porte de la ville auxquels ils firent ce rapport. Nous sommes entrés dans le camp des Syriens. Et voici, il n'y a personne, on n'y entend aucune voix d'homme, et il n'y a des chevaux attachés et des ânes attachés et des tentes comme elles étaient. Les gardes de la porte crièrent et ils transmirent ce rapport à l'intérieur de la maison du roi. Le roi se leva de nuit. Il dit à ses serviteurs, « Je veux vous communiquer ce que nous font les Syriens. Comme ils savent que nous sommes affamés, ils ont quitté le camp pour se cacher dans le champ et se sont dit, quand ils sortiront de la ville, nous les saisirons vivants et nous entrerons dans la ville. » Le verset 13, l'un des serviteurs du roi répondit que l'on prenne 5 des chevaux qui restent encore dans la ville. Ils sont comme toute la multitude d'Israël qui est restée. Ils sont comme une multitude d'Israël qui dépérit, et envoyons voir ce qui se passe. On prit 2 chars avec les chevaux, et le roi envoyait des messagers sur les traces de l'armée des Syriens en disant, « Allez et voyez. » Ils allèrent après eux jusqu'au Jourdain, et voici toute la route était pleine de vêtements et d'objets que les Syriens avaient jetés dans leur précipitation. Les messagers revinrent et rapportèrent au roi. Le peuple sortit et pilla le camp des Syriens. Et l'on eut une mesure de fleurs de farine pour un sicle et deux mesures d'orge pour un sicle, selon la parole de l'Éternel. Et le roi avait remis la garde de la porte à l'officier sur la main duquel il s'appuyait. Mais cet officier fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut, selon la parole qu'avait prononcée l'homme de Dieu quand le roi était descendu vers lui. L'homme de Dieu avait dit alors au roi, on aura deux mesures d'orge pour un sicle et une mesure de fleurs de farine pour un sicle demain à 7 heures à la porte de Samarie. Et l'officier avait répondu à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée avait dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. C'est en effet ce qui lui arriva. Il fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut. La parole de Dieu. Prions. Seigneur notre Père, notre Dieu, Seigneur, voici, nous sommes tes serviteurs devant ta parole. Ta parole qui est une parole vivante. Seigneur, qui a le même effet comme il avait il y a plus de 2000 ans. Seigneur, nous te prions que tu nous éclaires. Fais briller la lumière de ta parole, Seigneur. Éclaircir nos cœurs. Seigneur, ouvre nos yeux puisqu'on peut voir la merveille qui est dans ta parole. Seigneur, purifie-nous, sanctifie-nous, puisque ta parole, elle peut faire son œuvre en nous. Nous ouvrons nos cœurs devant toi, ô souverain Maître, notre Seigneur. Entre nous, nous prions, et pour ta seule gloire. Amen. Donc ce matin, nous étudierons le chapitre 7 du deuxième livre des rois de l'Ancien Testament dans notre quête des précieuses leçons pour nous qui est dans la parole de Dieu. Nous allons creuser pour découvrir les trésors qui sont cachés. Vous le savez, bien sûr, la parole de Dieu est comparée à un trésor caché. Et de mardi, nous avons vu la parabole, hein, où on a lu que le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ, l'homme qui a trouvé le caché. Et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. On voit combien, Seigneur, sa parole, son royaume est précieux pour un enfant de Dieu. Nous trouvons ça à Matthieu 13, 44. Écoutez ce qui était dit dans le livre de Proverbes. Si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. C'est à nous de chercher, comme nous pouvons chercher les choses précieuses. Si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Nous nous réunissons ici en tant que corps de Christ pour louer Dieu et l'adorer, pour grandir dans la connaissance du Christ, pour entendre ce que l'Esprit de Dieu a à nous dire à son Église ce matin. Les choses se forment, les deux choses forment le temps d'adoration. Le moment où les enfants de Dieu le louent pour tout ce qu'il est, pour tout ce que il fait, mais également attendre sa présence pour l'écouter afin de faire sa volonté. Et vous savez, nous, dans notre assemblée, nous avons ces deux moments, mais c'est ensemble. Quand on vient au temple, on dit que, à l'église, on dit qu'on va pour adorer le Seigneur. Mais la première partie, c'est bien, nous louons le Seigneur, avec la parole, avec les chants, avec notre présence. Et la deuxième partie, nous consacrons notre temps pour écouter ce que le Seigneur a nous dire. Mais également attendre en sa présence pour écouter afin de faire sa volonté. Dans notre adoration et notre louange, nous remercions Dieu pour son don le plus précieux, Jésus-Christ, notre Seigneur, et Sauveur. Et dans le même moment d'adoration et dans une sainte crainte, nous écoutons aussi sa voix. C'est un moment unique de conversation visible du corps des croyants avec leur Seigneur et leur Sauveur. On peut adorer le Seigneur à la maison. Nous adorons le Seigneur aussi dans notre vie privée, à la maison. Mais ça, c'est un moment unique quand l'Église a une conversation avec son Sauveur, avec son Seigneur. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit aux Colossiens. Colossiens 2:2-3, je vais lire. « Afin qu'il ait le cœur rempli de consolation, qu'il soit uni dans la charité et enrichi d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. » Et connaître le mystère de Christ, mystère lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Le passage du 7e chapitre de 2 Rois que nous avons devant nous aujourd'hui est tiré des pages sombres de l'histoire du peuple de Dieu. En raison de leur désobéissance continue et de leur péché, le royaume d'Israël avait été divisé en deux après la mort de Salomon et pendant le règne de son fils Roboam. La division a eu lieu alors que le peuple s'est révolté contre les lourdes taxes prélevées par Salomon et Roboam. Cela a eu lieu vers l'an 975 avant Jésus-Christ, avant la naissance de Jésus-Christ, comme l'a prophétisé Ahija. Vous trouverez dans le 1 Roi, chapitre 11, versets 31 à 35. Le royaume d'Israël au nord, contenant la ville de Sichem et de Samarie comme capitale, et le royaume de Juda au sud, contenant le temple et la ville de Jérusalem comme capitale. L'État affaibli, les deux royaumes l'a laissé ouvert aux attaques d'autres pays, de près et de loin, comme la Syrie, Moab, Ammon, Assyrie, Babylone. Notre histoire est celle d'un siège de Samarie en 2 Rois 6, le chapitre précédent. On peut lire ce passage de 2 Rois 6, 24 à 29, orchestré par le roi Ben-Hadad, roi de Syrie, qui a provoqué une terrible famine sur la ville de Samarie. En dehors de nombreux éléments et personnages dans le passage que nous venons de lire, l'élément principal que nous voyons est la famine. Si nous allons lire le passage, on va lire. La famine étant induite par le fait que la Samarie était encerclée par leurs ennemis. La dernière partie du 6e chapitre nous donne un compte-rendu de la gravité de la famine qui est déchirante. Prenez avec moi pour lire le chapitre précédent de 2 Rois, chapitre 6. On va lire à partir de verset 25. On voit la terrible scène de dépravation totale d'êtres humains. 2 Rois, chapitre 6, verset 25. Il y a eu une grande famine dans Samarie et ils la serrèrent tellement qu'une tête d'un âne, tête d'âne valait 80 cycles d'argent et le quart d'un câble de fiente de pigeon, 5 cycles d'argent. Et comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria, sauve-moi au roi, mon seigneur. Il répondit, si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Avec le produit de l'air ou de pressoir? Et le roi lui dit, qu'as-tu? Elle répondit, cette femme-là m'a dit, donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui et demain nous mangerons mon fils. Nous avons fait cuire mon fils et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui ai dit, donne ton fils et nous le mangerons. Mais elle a caché son fils. Lorsque le roi entendit les paroles de cette femme, il déchira ses vêtements et passant sur la muraille, et le peuple vit qu'il avait en dedans un sac sur son corps. C'est triste, n'est-ce pas? Dans quelle profondeur la société humaine peut descendre? Mais la famine était si terrible. Avez-vous déjà rencontré un scénario aussi sanglant? Choquant, n'est-ce pas? Nous savons que la Bible est tout à fait vraie parce qu'elle parle de la profondeur des répercussions du péché comme elle parle de la nature la plus sainte de Dieu trinitaire. Qui est responsable de ces choses? Mais souvent, quand nous lisons les choses, quand nous voyons les choses dans les médias, dans la télé, nous sommes choqués, nous sommes concernés de voir les choses. Mais est-ce que nous voyons le péché de l'homme derrière toutes ces choses? C'est à cause de la péché de l'homme, désobéissance de Adam, toutes ces choses sont entrées dans le monde. Le péché de l'homme, bien sûr. Chaque fois que vous êtes témoin des crimes les plus odieux et atroces commis sur cette terre, de la méchanceté, de la guerre et de l'injustice et des violences les plus terribles, pensez que c'est le péché de l'homme qui en est la cause profonde au lieu de jeter des questions sur Dieu et sur son existence même. Et souvent, quand nous... Une semaine, il y a quelque chose qui est passé dans l'Île-de-France et tout le monde parle de ce meurtre d'un innocent. Mais beaucoup de gens qui posent les questions sur Dieu. Pourquoi Dieu? Si Dieu est vrai, pourquoi il permet telle chose? Mais personne ne parle de péché de l'homme. Le chapitre commence par la déclaration de la parole de Dieu par son serviteur Élisée. Le chapitre se termine par l'accomplissement de la parole de Dieu. Vous avez remarqué que tel que le serviteur de Dieu il a dit, les choses sont arrivées de la même manière. Ça a terminé par la même manière à la fin du chapitre. Mais l'histoire nous est racontée à travers quatre hommes dans cette histoire. On apprend tout ce qui se passe par le moyen de ces quatre hommes qui étaient des lépreux et qui étaient des intouchables vivants devant la porte de la ville. Ils étaient misérables, beaucoup plus misérables que ceux qui vivaient à l'intérieur des murs fortifiés de la ville. Mais les conditions des lépreux, je ne sais pas combien de personnes ici vous avez déjà rencontré des gens atteints de lèpre. C'est assez pitoyable, la scène. Hein? Ce que le péché il peut faire à un être humain dans son corps. Donc, les versets 3 et 4 de chapitre 7, il y avait à l'entrée de la porte de porte quatre lépreux qui se dirent l'un à l'autre, « Quoi resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est là dans la ville et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens et nous laissent vivre. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons, et s'ils nous font mourir, nous mourrons. » Nous avons pu avoir un aperçu de scénario sinistre qui prévalait dans la ville assiégée, selon lequel, en raison de siège, les gens étaient condamnés à mort. Les gens étaient dans la ville assiégée, les gens étaient condamnés à mort. C'était une situation où les faibles teignaient déjà. Même dans la circonstance normale, ces lépreux ont été abandonnés pour vivre à l'extérieur des murs de la ville, pour vivre et teindre pour eux-mêmes. Sans soins, intouchables, ostracisés par la société à cause de leur maladie. Je me demande combien entre vous ont déjà vu une personne atteinte de la lèpre. C'est vraiment un spectacle pathétique, la façon dont la maladie progresse et défigure leur corps. Leurs parties du corps pourrissent alors qu'il était encore en vie. Il était les êtres vivants pire que les morts. La Bible parle beaucoup de lèpre, de maladie. Hein. Vous pouvez voir dans Lévitique chapitre 13 et 14, il y avait des règlements très stricts par rapport aux lèpre, comment traiter les lèpre. Parce que il y avait plusieurs types de cette maladie et les gens ils craignaient que il peut être très contagieux. Donc c'était à l'époque ces hommes ils étaient laissés à vivre et mourir par eux-mêmes. Même dans il y a quelques siècles avant en Europe, on savait pas quoi faire avec les lépreux. On mettait dans un bateau, on mettait un peu de nourriture, de l'eau. Il nous envoyait dans une île, puisqu'il peut vivre et mourir par eux-mêmes. Ça, c'était la situation. Si nous regardons le verset 3, il y avait à l'entrée de la porte quatre lépreux qui se dirent l'un à l'autre, « Quoi resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions ?» C'est une bonne question. Je voudrais que nous analysions cette question vitale de ces lépreux. La vie s'est arrêtée. Ils ne peuvent pas entrer dans la ville et même s'ils forçaient leur chemin, à quoi cela servirait-il? Tout le monde dans la ville est en train de mourir. Alors, quel est l'intérêt de rester assis là? En attendant que la mort vienne, il faut faire quelque chose. Une décision doit être prise qui pourrait les tuer ou les sauver. Il y a des gens qui sont indécis dans leur vie. Mais prendre la bonne décision peut sauver la vie et peut-être sauver la vie des autres. Il y a eu un moment dans la vie de fils prodigue où il décida de quitter l'endroit où il devait retourner auprès de son père. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Étant rentré en lui-même, il se dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance? Et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. » Et parfois dans la vie, il faut prendre une décision. Il faut prendre une décision. Pour ceux qui n'ont pris aucune décision sur votre salut, c'est ma question aujourd'hui. Où en êtes-vous sur votre décision aujourd'hui? Où en êtes-vous sur votre décision aujourd'hui? Êtes-vous encore indécis par rapport à la question de salut? Depuis combien de temps reposez-vous cette question vitale? Resterai-je ici jusqu'à ce que je meure? Mais personne ne sait quand la mort viendra. Il n'y a pas un âge pour mourir, n'est-ce pas? On peut mourir vieux ou jeune, ou même subitement. Resterai-je ici jusqu'à ce que je meure? Le péché et la lèpre a-t-il causé en vous? Le péché de la lèpre a-t-il causé en vous un engourdissement pour vous empêcher de décider? Cher ami, c'est une question de la vie ou la mort. Pourquoi tarder de décider? Vous savez, la lèpre, c'est une maladie qui ravage les nerfs. Et quand on est atteint du lèpre, on n'a pas de sensibilité sur le membre du corps. Et quand il y a une blessure arrive, il ne peut pas sentir la douleur. Donc à cause de ça, la partie du corps, il peut tomber, il peut pourrir, il peut tomber. Et c'est la même chose avec le péché aussi. Et quand on est atteint du péché, on est né pécheur. Quand on est atteint du péché, on n'a pas la sensibilité par rapport au péché, par rapport à la mort, par rapport au danger que nous environne. Et on peut être assis sans savoir quoi faire, sans indécis complètement, et en train de mourir. Et comme ces quatre lépreux. Mais ils sont posés les bonnes questions, n'est-ce pas? Ils sont posés à un moment donné une bonne question. Quoi resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Non. Je me suis posé des questions ici quand une mort certaine était de deux côtés. Qu'est-ce qui les a amenés à penser qu'ils pourraient aller dans le camp ennemi pour vivre ou mourir? La décision était presque suicidaire et ils ont osé. Hein, une décision, c'était presque suicidaire parce que les deux côtés, ils peuvent mourir. Entrer dans la ville, ils ne trouveront rien. Ou le peuple, il peut les massacrer aussi, du peur. Sinon, dans le camp ennemi, il peut être tué. Regardons le verset 5 de chapitre 7. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre le camp des Syriens un bruit de chars et de bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée, et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Éthiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. Ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leur âne, le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver la vie. Le lépreux était arrivé à l'entrée du camp, pénétrant dans une tente, mangèrent et burent, et emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'il allait cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente, et emportèrent des objets qu'il allait cacher. Donc ici, on voit dans l'histoire que Dieu a fait un miracle, qu'il a fait fuir l'ennemi sans qu'un épée ait été soulevée contre eux. Ces quatre lépreux, lorsqu'ils sont entrés dans le camp syrien, pensaient qu'ils pourraient être tués. Mais ce qu'ils ont découvert, c'est que tout le camp était vide. Les Syriens avaient tout abandonné et avait fui par l'intervention divine de Dieu. Nous voyons ici que le Seigneur notre Dieu est souverain et qu'il règne sur toute la terre. Il règne sur tous les dirigeants de cette terre. Il est le roi des rois et des seigneurs des seigneurs. Mais parfois nous sommes attristés par les choses, par le fait comment les choses passent dans le monde, comment nous sommes gouvernés, comment les lois sont promulguées contre les enfants de Dieu. Mais il faut toujours se rappeler que le Seigneur, il est souverain. Il dirige toutes choses et rien qui se passe sans sa connaissance. Dans le chapitre 6, nous voyons que Dieu a ouvert les yeux de serviteur d'Élisée et aveugler ses ennemis. Vous savez, dans le chapitre 6, nous avons cette histoire où Élisée, le serviteur d'Élisée, vient dire qu'il y a une grande armée autour de nous. Et que ferons? Et Élisée, il a prié que le Seigneur il ouvre les yeux de son serviteur. Il voit une grande armée éternelle autour d'eux. Et aussi, les ennemis de cette nation deviennent aveugles. Et le même Seigneur, maintenant nous voyons que Dieu avait fait entendre aux ennemis de son peuple de sons et de bruits d'une grande armée triomphante. Quel grand Dieu nous avons! Il peut faire sortir les morts du tombeau. Il peut séparer la mer et changer la direction des fleuves. Il pouvait faire marcher les boiteux et les aveugles. Il peut ouvrir la porte de la prison et ce grand Dieu frappe toujours à la porte de votre cœur. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et souperai avec lui et lui avec moi. C'est à vous d'ouvrir la porte du cœur, de votre cœur. Mais Dieu ne force pas son entrée dans notre vie. Il est le Dieu souverain, mais il ne force pas son entrée dans notre cœur. Il attend qu'on ouvre notre cœur à lui. Regardez le verset 9. Puis ils se dirent l'un à l'autre, « Nous agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. » En tant qu'enfant de Dieu, sauvé par la grâce, nous méditerons un moment sur le verset 9 de ce chapitre. Ce verset nous est donné tel qu'il a été dit par ces quatre lépreux dans cette histoire de 2 Rois, chapitre 7. Si nous allons nous arrêter pour réfléchir, nous trouverions quelques similitudes entre ces lépreux et de nous-mêmes. Ces lépreux ont souffert de la famine pour se nourrir comme leurs compatriotes. Comme tout le monde, ils étaient affamés. Certainement, ils étaient des mendiants, mais également affamés comme leurs compatriotes dû à la famine. Leur souffrance était beaucoup plus encore due à leur maladie physique et à l'ostracisme social. Au début, ils ont fait des folies dans leur nouvelle richesse. Ils viennent de trouver la nourriture et de l'eau. Je ne sais pas si nous aurions agi différemment. Nous aurions agi dans la même manière. Si nous étions affamés dans la famine, si on invite pour un repas, et que ferions-nous? Mais après réflexion, ils savaient qu'ils devaient dire aux autres ce qu'ils avaient trouvé, et ils ont fait. Il y a une leçon précieuse que nous apprenons de ces quatre lépreux, surtout quand ils ont dit « Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. » Ils ont pensé tout de suite à leurs compatriotes, au peuple qui sont assiégés dans la ville, qui sont en train de mourir à cause de leur faim et leur soif. Ils disent que « C'est une journée, est une journée de bonnes nouvelles. » La conséquence de garder silence quand on a des bonnes nouvelles à partager. Pourquoi certaines personnes peuvent-ils garder le silence aujourd'hui? On va voir le parallèle entre la situation dans le passage et notre situation aujourd'hui. Dans chaque cas, il y a une famine pour la nourriture. De nos jours, c'est une famine pour la bénédiction que seul Dieu peut nous donner. La parole de Dieu. Nous avons reçu la parole de Dieu. Nous avons eu cette vision. Notre famille est liée au problème du péché. La parole nous dit car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, 23. Et pourtant Dieu offre le don gratuit de salut. Le don gratuit de salut, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Romains 6, 23. Dans chaque cas, il y a une abondance disponible librement. Les quatre lépreux ont trouvé une abondance de nourriture dans le camp syrien. Maintenant, il y a une abondance de bénédictions spirituelles en Christ. Dieu le Père, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Et nous sommes de récipients de bénédiction en Jésus-Christ. En Apocalypse 22, 17, nous lisons « Et l'Esprit et l'Épouse disent « Viens, viens, et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. » Donc, nous avons l'accès à cette vie était éternel. Les quatre lépreux ont trouvé ce dont ils avaient besoin, même plus que leurs besoins. Maintenant, ce sont les chrétiens qui connaissent la joie du salut. Les lépreux savaient ce qu'il était juste et l'ont fait. Ils savaient qu'il aurait tort en gardant le silence. Ils savaient qu'ils seraient punis s'ils gardaient la bonne nouvelle pour eux-mêmes. Alors ils sont retournés en ville et annoncé la bonne nouvelle. Et quand nous voyons cela, nous devrions faire une anatomie de notre silence par rapport à l'Évangile, n'est-ce pas? Que faisons-nous de l'Évangile que nous avons reçu, la bonne nouvelle que nous avons reçue? Beaucoup de chrétiens préfèrent vivre leur foi dans le silence. Que chacun analyse son cœur. Pour certains, il se peut qu'ils meurent de faim eux-mêmes. Pourquoi? Ils ont peut-être connu la joie du salut dans le passé, mais par négligence, ils n'ont pas réussi à grandir et oublier le salut dans le passé. Ils ont oublié ils ont oublié combien c'est précieux ce salut que Dieu nous a donné. En 2 Pierre 1:8-9, car si ces choses sont à vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et Dieu nous a sauvés. Et est-ce que nous avons cette joie de salut? Est-ce que nous vivons toujours avec cette joie de salut? Ou nous vivons d'une manière stérile, une vie stérile, sans la joie? En vérité, ils vivent dans un état de famine spirituelle, eux-mêmes. Par conséquent, ils ne peuvent ou rien partager avec les autres. Ceux qui jouissent de bénédiction de salut voudront le dire aux autres comme David l'a fait dans son psaume 32. Vous savez, le psaume 32, David, après son péché, après qu'il a tombé dans le péché, dans son repentance, il dit « Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse, poussez des cris de joie ou tout ce qui est droit du cœur. » Quand on est pardonné par Jésus-Christ, quand on est pardonné de nos péchés, comment on peut être silencieux? Comment on peut être muet de ne pas parler de joie intérieure que nous avons? Et quand on trouve Christ, quand on trouve la bonne nouvelle, quand on trouve Christ, certainement nous allons annoncer aux autres. Comme Philippe l'a fait quand il a trouvé Jésus, en Évangile de Jean, chapitre 1, versets 43-46. N'avez-vous pas de bonnes nouvelles qui valent la peine d'être partagées? Et certains sont silencieux à cause de leur peur. Et parfois, on dit que j'ai envie d'annoncer les bonnes nouvelles, mais j'ai peur. Regardez ce que la Bible nous dit, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'ayez donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier. C'est Paul qui dit, à Timothée, mais souffre avec moi pour l'Évangile. L'audace et l'assurance peuvent venir par la prière. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles, et des prodiges par ton nom et ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, et ils furent tout remplis de Saint-Esprit, et ils annoncèrent la parole de Dieu avec assurance. Donc, les disciples de Jésus-Christ se sont priés pour annoncer l'Évangile. Et ils sont une pleine assurance. Et ils sont une audace pour annoncer la parole de Dieu. Parce qu'ils sont, ils sont priés pour annoncer la bonne nouvelle. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit à son épître aux Éphésiens 6, 19, 20. « Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile pour lequel je suis ambassadeur dans la chaîne et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. » Nous sommes tous les ambassadeurs pour Christ et nous sommes tous censés annoncer la vertu de Jésus-Christ, la vertu de la bonne nouvelle. Si le découragement nous fait taire, souvenez-vous le principe de semeur et de moissonneur. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part de pécheurs, afin que vous ne vous laissiez point l'âme découragée. La peur et le découragement, aussi problématiques soient-ils, étaient vaincus par la foi et la persévérance de notre Seigneur Jésus. Vous savez ce que l'apôtre Paul il a dit, mais parfois on peut être découragé. L'apôtre Paul dit, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Notre travail, c'est seulement de semer la parole, de ne pas être découragé. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Et pourquoi craindre? Faire connaître l'Évangile deviendra facile si nous aimons le Seigneur. Si nous aimons le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée. Mais premièrement, nous devrions poser la question, est-ce que j'aime le Seigneur de tout mon cœur, de tout mon être, mon pensée, mon force? Donne au Seigneur une place spéciale dans notre cœur. Écoutez ce que l'apôtre Pierre dit. Mais sacrifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. 1 Pierre 3:15. Et nous devrions être prêts à répondre à tout ce qui peut poser les questions à nous. Préparez-vous à être prêts à donner une raison à l'espoir que vous avez. Mais est-ce que les gens, ils peuvent voir l'espoir que nous portons? Et est-ce que quand nous marchons dans la rue, dans nos lieux de travail, dans nos usinages, est-ce que les gens, ils peuvent reconnaître l'espoir que nous avons en Jésus-Christ? Préparez-vous à être prêt à donner une raison à l'espoir que vous avez. Par exemple, Christ est mort pour vos péchés et ressuscité. Ce matin, nous avons médité, chanté que Christ est ressuscité. Comme l'apôtre Paul dit, je vous rappelle, frère, l'évangile que vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. L'évangile, c'est quoi? Dans quelques mots, si on peut dire, c'est quoi l'évangile? Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés. Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon l'Écriture. 1 Corinthiens 15, 1 à 4. Et est-ce que nous cherchons l'opportunité pour partager la bonne nouvelle? Est-ce que nous cherchons l'opportunité pour partager Christ? Priez pour avoir des opportunités. C'est le Seigneur qui donne les occasions. Il donne à ceux qui sont préparés et prient. Priez pour la sagesse, pour tirer la meilleure partie de l'opportunité, dire la bonne chose de la bonne façon, au bon moment. Priez pour avoir le courage de parler quand on a l'occasion. Être capable de dire ce que les gens ont besoin d'entendre, pas nécessairement ce qu'ils veulent entendre. La question pour nous, les chrétiens aujourd'hui, est-ce que nous agissons comme ces lépreux, bien que ce soit un jour de bonne nouvelle? Sommes-nous des chrétiens silencieux? Rappelez-vous la parole de Mardoché à la reine Esther? Je vais lire ce qu'il a dit à la reine Esther. « Car si tu t'es maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et ta maison de ton père vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. » Et c'est un moment crucial dans la vie du peuple juif à Babylone. Quand Mardoché approche Esther, il dit que, et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Alors que le monde autour de nous meurt de faim spirituelle, régalons-nous de l'Évangile. Et chaque dimanche, quand on vient, on peut régaler de la parole de Dieu, on peut régaler de la présence de Dieu, de notre connaissance de Dieu. Mais pensons aux autres qui meurent dans la faim spirituelle, dans une famine spirituelle. Gardons-nous l'Évangile pour nous-mêmes. Si c'est le cas, nous n'agissons pas bien. Alors que le monde autour de nous meurt de faim spirituelle et nous ne pouvons pas régaler de l'Évangile pour nous-mêmes. Ce serait bien pour nous si nous pouvons apprendre de ce lépreux. Ce qu'ils ont dit peut être vrai de nous. Nous ne nous agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. En raisonnant entre eux, ils ont considéré les conséquences de garder le silence en ce jour de bonne nouvelle. Avons-nous réfléchi aux conséquences de garder le silence sur la bonne nouvelle de l'Évangile? Pour conclure, vous rappelez Isaïe qui a entendu la voix du Seigneur disant dans Isaïe chapitre 6, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Il répondit, « Me voici, envoie-moi. » Qui enverrai-je et qui marchera pour moi? Et il répondit, me voici, envoie-moi. Un fameux prédicateur du 18e siècle, John Wesley, il a dit ainsi, donnez-moi 100 prédicateurs qui ne craignent rien d'autre que le péché. Donnez-moi 100 prédicateurs qui ne craignent rien d'autre que le péché et ne désirent rien d'autre que Dieu. Et je ne me soucie pas du tout qu'il soit ecclésiastique ou laïque. Cela seul fera trembler les portes de l'enfer et établira le royaume des cieux sur terre. » Très fort parole, non? Et qui c'est? Qui est ce John Wesley? John Wesley est né le 28 juin 1703. Pieux parents chrétiens, dans une famille de 10 enfants, grandissant avec 2 frères, 7 sœurs. Il est devenu un grand serviteur de Dieu. Voulez-vous savoir ce qu'il a accompli? John Wesley a parcouru plus de 400 000 kilomètres à cheval. Je pense qu'on n'a pas voyagé autant dans l'avion, mais il a fait 400 000 kilomètres sur le dos de cheval. Publié 5 000 sermons. et prêché plus de 40 000 sermons. Et son frère Charles Wesley écrira 6 000 cantiques. Honnêtement, ça l'a fait tourner notre tête, n'est-ce pas? Comment cela a-t-il été possible pour lui? La journée de John Wesley avait seulement 24 heures. La journée de John Wesley avait seulement 24 heures. Certains peuvent comprendre pourquoi je dis cela. Mais bien souvent, notre excuse est « je n'ai pas le temps ». Mais tout le monde a 24 heures, pas plus que ça, n'est-ce pas? Mais John Wesley, il a pu accomplir un tel grand ministère pour son Seigneur. La question pour nous à cette heure est pourquoi voulons-nous garder le silence? Mes frères et sœurs, si nous gardons le silence au sujet de la bonne nouvelle, de l'Évangile, alors la parole des quatre lépreux sont vraies pour nous. Nous ne nous agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonne nouvelle. Si nous gardons le silence et nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Oui, allons raconter au monde qui est spirituellement affamé à propos de la fête que Dieu offre par son Fils Jésus-Christ. Partageons avec les autres ce que nous avons nous-mêmes trouvé. On ne peut pas dire quelque chose que nous n'avons pas trouvé. La bonne nouvelle, c'est je pense que mardi soir, on était en train de parler entre les frères que où trouver le diesel, où trouver l'essence. Et ça, c'était le sujet, vous savez. On était tous inquiets. Qu'est-ce que je peux faire si je n'ai pas l'essence? Et à 11h du soir, un frère, il m'appelle. Il dit que, écoute, j'ai trouvé il y a une pompe d'essence, c'est vide. Si tu veux remplir, tu peux aller là-bas. Et c'est ça la bonne nouvelle. Si on a trouvé quelque chose, et nous ne devrions pas garder le silence, nous devrions partager avec les autres, n'est-ce pas? Et comment on peut garder le silence? Et le psalmiste le dit dans le psaume 34:8, « Goûtez et voyez que l'Éternel est bon. Bienheureux l'homme qui se confie en lui. » Goûtez et voyez que le Seigneur est bon. Et est-ce qu'on arrive à dire aux autres, goûtez et voyez que le Seigneur il est bon? Mais pour cela, il faut d'abord goûter. Il faut avoir goûté le Seigneur. Vous savez, on ne connaît pas grand-chose sur André, le disciple de Jésus-Christ. Mais il était un des premiers pour être appelé. André, frère de Simon-Pierre, était l'un de deux qui avait entendu la parole de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier, son frère Simon, et lui dit, nous avons trouvé le Messie. Il n'a pas fait grand-chose, mais il a simplement dit, j'ai trouvé le Messie, nous avons trouvé le Messie. Et Pierre, ce qu'il a accompli pour le Seigneur. Personne n'a pensé que cet apôtre Pierre, il va devenir ce qu'il est devenu. Vous vous rappelez de cette petite fille juive qui était amenée par l'armée syrienne. On trouve cette histoire dans 2 Rois 5. Un Syrien était sorti par troupes et il avait amené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète, qui est en Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » On ne connaît même pas le nom de cette petite fille. La Bible n'est pas mentionnée. Dieu l'a décidé ainsi. Mais cette petite fille, elle a annoncé cette bonne nouvelle au peuple païen. Qu'il fasse expérience de la joie, de la paix et de l'amour de Dieu que seul Dieu peut donner. La Bible dit que « Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et l'éclaire tous ceux qui sont dans la maison. » En effet, cette journée, c'est une journée de la bonne nouvelle. Car c'est le jour du salut et personne ne devrait mépriser la grâce de Dieu. Acceptons-nous, nous qui avons été si richement bénis. la responsabilité que le Christ nous a confiée. Si notre ferveur s'est calmée alors que nous devrions nous souvenir de la parole de Jésus, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Premier amour. Souviens-toi donc où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi, je ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Apocalypse 2, 4 à 5. Donc le Seigneur nous a sauvés. Et comment nous pouvons être silencieux? Comment nous pouvons garder le silence de ne pas annoncer cette bonne nouvelle aux autres? Mais est-ce que nous sommes conscients que le monde autour de nous, il est en train de périr? Et le Seigneur, il peut venir n'importe quel moment. Le mort, il peut arriver n'importe quel moment. Et aujourd'hui, c'est une journée de bonne nouvelle. Nous devrions être prêts à annoncer cette bonne nouvelle autant que possible. Prions. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ce passage qui est dans ta sainte parole. Seigneur, cette question, cette décision de ces hommes nous interpelle. Seigneur, garde-nous le silence. Comment nous pouvons garder le silence, Seigneur? Mais pourtant, nous savons que nous avons des choses à faire pour toi. Seigneur, nous savons que nous confessons devant toi que nous ne sommes pas en train d'œuvrer comme nous devrions. Seigneur, cette responsabilité, elle est sur chacun de nous. Seigneur, tu nous as sauvés. Seigneur, tu nous as bénis avec ton amour immense. Mais Seigneur, comment nous ne pouvons pas partager cet amour de Christ aux pécheurs qui périssent autour de nous? Seigneur, donne-nous le courage. Donne-nous un cœur pour partager ton évangile. Seigneur, que ton esprit anime notre cœur. Que Seigneur, avec un nouveau zèle, avec un nouveau cœur résolu, Seigneur, nous partons pour annoncer Jésus-Christ. Que Christ est venu dans ce monde pour sauver les pécheurs. Et que le sang de Christ peut effacer les péchés, qui pardonnaient les pécheurs. Seigneur, nous nous remettons chacun d'entre nous entre tes mains. Prends-nous, Seigneur, et conduis-nous. Nous demandons cette prière dans le précieux nom de notre Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ. Amen.